France Culture.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Entendez-vous l'écho, une émission préparée aujourd'hui par Valentin Gris, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Alex Dang.
Firoja Begum était couturière au cinquième étage du tristement célèbre Rana Plaza. Aujourd'hui, il ne reste plus que cette mare verdâtre, là où se trouvait l'immeuble. Pour la couturière, rien ou presque n'a changé en 2 ans. Elle a repris le travail dans un autre atelier tout proche et décrit les mêmes conditions.
Je ne peux pas imaginer que cette tragédie se répète, mais tout ce que je vois autour de moi me dit le contraire. Ça me rend triste. Je me demande combien de morts il leur faudra pour qu'ils changent. Nous n'avons aucun pouvoir. À cause de notre pauvreté, nous devons travailler pour eux. Ce sont les pires personnes de la planète.
L'industrie textile au Bangladesh, c'est 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 4 millions d'employés. Le secteur a connu une petite crise après le Rana Plaza. Aujourd'hui, oublié, comme le confirme ce directeur d'atelier, le business est florissant.
Il arrive parfois que les mécanismes du capitalisme se dévoilent dans toute leur violence. C'est ce qu'il s'était passé le 24 avril 2013, lorsque l'immeuble du Rana Plaza, près de Dhaka au Bangladesh, s'était effondré, faisant plus de 1100 morts, pour la plupart des ouvrières et des ouvriers travaillant pour des marques occidentales de l'industrie textile via un système de sous-traitance. Ce qui s'est effondré ce jour-là, c'est aussi un système de mise à distance géographique, mais aussi institutionnelle, entre le consommateur et le producteur, jusqu'ici entretenu par un grand nombre d'intermédiaires, occultant ainsi la réalité des conditions de travail de celles et ceux situés au bout de la chaîne. Car en dehors des événements dramatiques de ce genre, c'est ainsi que fonctionnent les logiques de l'exploitation, de façon invisible, où le rapport entre exploiteur et exploité est distendu, occulté. Désormais, penser l'exploitation, c'est non seulement penser l'appropriation du travail dans les pas de Karl Marx, mais c'est aussi penser les rapports de pouvoir au sein de chaînes parfois très longues et où il devient compliqué de savoir qui exploite vraiment qui. Et qui peut être tenu responsable de quoi? C'est donc à ce terme d'exploitation et la façon dont il se réinvente sans cesse que nous allons consacrer l'heure qui vient en compagnie d'Ulysse Lochkin, agrégé de philosophie, post-doctorant en philosophie et en économie à l'Université de Paris-Nanterre et à l'École d'économie de Paris et auteur d'un ouvrage qui retisse la trame théorique et pratique de cette notion. Ulysse Lochkin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc l'auteur du Fil invisible du capital, déchiffrer les mécanismes de l'exploitation. C'est le titre de votre ouvrage paru à la Découverte le 10 avril dernier. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Ulysse Lochkin, il faut commencer par le commencement, si vous le voulez bien, puisque c'est autour du concept d'exploitation que nous allons travailler, réfléchir aussi aujourd'hui jusqu'à 15h. Impossible, Ulysse Lochkin, d'ignorer un fait, ou plutôt un imaginaire. La notion d'exploitation est assez connotée, elle est politique d'une certaine manière, tant elle porte en elle quasiment immédiatement l'idée d'une contestation, d'une revendication, au point qu'il devient compliqué de l'employer en économie d'un point de vue scientifique. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'il faut se méfier de ce terme sous prétexte qu'il ne serait justement pas scientifique?
Non, je pense pas qu'il faut s'en méfier. Il faut avoir conscience, effectivement, de ce qu'il charrie avec lui. Mais je dirais que la plupart des concepts qu'on emploie pour décrire l'économie ont des connotations politiques différentes. Donc, effectivement, ça demande du recul. Effectivement, un de mes buts dans ce livre, ça a été de défendre ce concept en tant que concept rigoureux. Donc, on peut l'employer. Il y a plusieurs emplois aussi d'un même terme ou d'un même concept qui sont liés entre eux, mais pas, qui se superposent pas exactement. Et moi, j'essaye de défendre ce concept d'exploitation du travail comme concept rigoureux et donc en particulier mesurable.
Il y a cette connotation-là, alors on va voir effectivement qu'on peut lui donner une forme de scientificité ou en tout cas l'exploiter lui-même en tant que concept rigoureux, vous l'avez dit. Par ailleurs, il y a une autre connotation qui vient, en fait, qui est très liée à la première que j'évoquais à l'instant, c'est celle d'un terme marxiste par excellence. Alors est-ce que pour autant le marxisme a le monopole de l'usage du mot d'exploitation? Vous dites dans votre ouvrage que les travaux issus du paradigme dominant et publiés dans des revues de référence parlent d'exploitation sans le savoir. Comment expliquer cette sorte d'aveuglement?
Aveuglement, en tout cas, c'est des langages différents qui sont employés. C'est-à-dire que Marx a développé tout un système et un vocabulaire dont le terme d'exploitation est une des briques, mais il y en a d'autres, donc des concepts plus ésotériques, capital constant, capital variable, etc., qu'on trouve donc, quand on ouvre les pages du Capital. Et les économistes contemporains n'utilisent pas ces termes. Ils en utilisent d'autres. Ils vont parler de productivité marginale, ils vont parler de pouvoir de marché, voilà. Donc, on a deux langages différents, mais ça ne veut pas dire que ça ne parle pas de la même chose.
Et du même mécanisme, de fait.
Voilà. Et donc, par exemple, les économistes s'intéressent beaucoup, en particulier ces dernières années, à mesurer et expliquer les évolutions d'une grandeur qui est la part des salaires dans la valeur ajoutée, par exemple. Donc, dans la totalité de ce qui est produit dans un pays, voire à l'échelle internationale, comment ce produit se répartit entre salaire et profit. Ben, ça, c'est une grandeur à laquelle Marx s'est beaucoup intéressé et que Marx appelle le degré d'exploitation à l'échelle agrégée. Donc, on voit que voilà, les économistes contemporains parlent de la même chose en l'appelant autrement. Un autre exemple sur lequel je pense on reviendra, c'est le pouvoir de marché, comme l'appellent les économistes contemporains, donc sur le marché du travail. Donc, la notion de monopsone, c'est-à-dire le fait que les employeurs, la concurrence entre les employeurs et des frictions et des limites qui font que les salariés se retrouvent captifs d'un emploi donné à un moment donné. Ça conduit ces économistes aujourd'hui, y compris voilà, le prix Nobel récemment a été accordé à David Card qui travaillait là-dessus. Ça les conduit à s'intéresser au pouvoir de l'employeur sur le salarié, qui est évidemment quelque chose auquel les marxistes se sont beaucoup intéressés. Mais ils vont pas forcément lui donner le même nom. Donc, effectivement, je pense qu'il est possible, à la fois, il y a parfois des incompatibilités importantes entre les paradigmes, et je pense qu'on aura l'occasion d'en citer certaines, mais parfois aussi c'est des différences de vocabulaire qui sont employées, et je pense qu'il est intéressant de revisiter certains travaux contemporains d'économie, voilà, qui sont publiés dans ce qu'on appelle l'économie mainstream ou orthodoxe, et de les réinterpréter à la lumière des concepts marxistes ou inversement.
Vous avez prononcé les mots, vous avez dit à la lumière des concepts marxistes, pour clôturer cette première avancée dans la définition de ce mot d'exploitation. Est-ce qu'on peut quand même conclure, Ulysse Lochkine, que qui dit exploitation dit nécessairement terme marxiste ? Est-ce que, je repose la question, mais est-ce que le marxisme a le monopole de l'exploitation ?
Non. C'est quelque chose qui est souvent ignoré, c'est qu'il y a d'autres paradigmes qui ont donné leur propre définition de l'exploitation qui est différente. Alors là, pour le coup, l'exercice de traduction devient plus compliqué parce qu'ils utilisent le terme d'exploitation mais dans un autre sens. Et un exemple auquel je consacre pas énormément de pages mais qui m'a quand même intéressé, c'est les libertariens. Dont il est beaucoup question aujourd'hui puisque c'est un peu la philosophie qui inspire Trump. Les libertariens, des penseurs comme Rothbard ou, en fait, la plus connue est sans doute une écrivaine, Ayn Rand, ont parlé d'exploitation en identifiant l'exploitation à la coercition, donc par l'État en particulier. Et donc, ils font pour eux, la forme par excellence de l'exploitation dans les sociétés contemporaines, c'est l'impôt. Et donc, finalement, c'est l'exploitation de la minorité des entrepreneurs fortunés par la majorité qui est représentée dans cette bureaucratie met en œuvre ce matraquage fiscal contre les entrepreneurs valeureux. Ce que Ayn Rand décrit avec beaucoup de style dans son roman La Grève. Donc, il y a plusieurs concepts pensables de l'exploitation. L'exploitation, ça peut être, voilà, on peut restreindre l'exploitation à cette idée d'appropriation par l'État, ou on peut en avoir un concept plus étendu. Les néoclassiques, justement, ont leur propre concept qui est lié à ce pouvoir de monopsone que j'évoquais, donc qui est lié à des imperfections dans la concurrence. Et c'est vrai que dans mon livre, je me place au contraire dans le sillage de ce qui est la version la plus connue quand même du concept d'exploitation, qui est celle de Marx, et donc qui s'intéresse en particulier à l'exploitation de la grande masse des travailleurs par les capitalistes.
La version la plus connue que je vous propose donc d'écouter sous la forme de la lecture d'un extrait du Capital du livre 1, section 3.
Sur le marché, le capitaliste achète à sa juste valeur chaque marchandise. Coton, broche, force de travail. puis il fait ce que fait tout autre acheteur. Il consomme leur valeur d'usage. La consommation de la force de travail étant en même temps production de marchandises, rend un produit de 20 livres de filet valant 30 shillings. Alors le capitaliste, qui avait quitté le marché comme acheteur, y revient comme vendeur. Il vend les filets à 1 shilling 6 pence la livre, pas un liard au-dessus ou au-dessous de leur valeur, et cependant, il retire de la circulation 3 shillings de plus qu'il n'y avait mis. C'est là sur le marché que se vend la force de travail, pour être exploitée dans la sphère de la production, où elle devient source de plus-value, et tout est ainsi pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Le capitaliste, en transformant l'argent en marchandises, qui servent d'éléments matériels d'un nouveau produit, en leur incorporant ensuite la force de travail vivant, transforme la valeur du travail passé, mort, devenu chose en capital, en valeur grosse de valeur, monstre animé qui se met à travailler comme s'il avait le diable au corps. La production de plus-value n'est donc autre chose que la production de valeur, prolongée au-delà d'un certain point. Si le procès de travail ne dure que jusqu'au point où la valeur de la force de travail payée par le capital est remplacée par un équivalent nouveau, il y a simple production de valeur. Quand il dépasse cette limite, il y a production de plus-value.
Exploitation, c'est le terme que nous inscrivons aujourd'hui d'Entendez-vous l'écho dans le dictionnaire de l'écho grâce à Ulysse Lochkin, post-doctorant à Sciences Po et auteur d'un ouvrage sur le sujet Le fil invisible du capital déchiffré, les mécanismes de l'exploitation. Alors avec cet extrait, Ulysse Lochkin, on rentre dans le dur quelque part de cette définition la plus classique, comme vous le disiez à l'instant, celle de Marx. Il y a un premier point sur lequel il faut absolument revenir et qui est présent aussi dans cet extrait, c'est que chez Marx, c'est bien la force de travail qui fait l'objet de l'exploitation par un processus de transformation. En fait, on peut dire que l'idée chez Marx essentielle, c'est celle d'avoir transformé le travail en marchandise, et de ce fait-là intervient une forme d'exploitation, si on devait le résumer.
Oui, parce que cet extrait est, je pense, très, très adéquat pour présenter la conception marxiste de l'exploitation.
Il dit beaucoup de choses, oui.
On voit qu'il s'agit avant tout, le premier niveau, c'est une comptabilité. Et donc, c'est pour ça que les textes de Marx sont aussi parfois durs à appréhender, parce qu'on se retrouve avec des livres et des shillings, etc. Quand on pense à l'exploitation, on pense évidemment à l'ouvrier qui est sous les ordres de son contremaître, etc. Mais pour Marx, c'est d'abord une analyse comptable pour dévoiler de manière comptable une appropriation. Et une appropriation de quelque chose de spécifique qui est le travail ou le temps de travail. C'est-à-dire que Marx développe des outils de comptabilité en travail pour montrer que le capitaliste, donc cet employeur-entrepreneur qui va sur le marché de l'emploi pour recruter quelqu'un qui a besoin de lui pour vivre et le faire travailler pour lui, son profit monétaire en fait, qui est ordinairement compté en unités monétaires, en livres dans le contexte du capitalisme britannique dont parle Marx, en euros aujourd'hui, en fait, ce profit représente une appropriation du travail du salarié. Et pour ça, il faut mettre en place une comptabilité en travail, et Marx le fait à travers la catégorie de valeur. Et donc, en particulier, cette valeur qui va être appropriée par le capitaliste, c'est la plus-value dont on a entendu parler ici. Et ça, c'est la conception de Marx avant tout. Après, là-dessus, se greffe évidemment beaucoup d'autres choses. Une conception de la dynamique du capital et de l'accumulation grâce à l'exploitation, une conception du pouvoir, etc. Donc, peut-être on reparlera. Mais déjà, il y a ce premier niveau de comptabilité.
C'est ce niveau de comptabilité qui revient à quantifier, en fait, à, encore une fois, mettre des chiffres, des nombres, à donner une valeur chiffrée à un phénomène, effectivement, qui d'apparence paraît beaucoup plus social, beaucoup plus conflictuel. Ce qui est intéressant aussi, et c'est là où il faut remettre les choses dans leur contexte aussi, et notamment le contexte de la pensée de Marx, c'est que cette exploitation telle qu'elle est décrite par Marx a une caractéristique majeure, dans un premier temps au moins, elle est moins visible finalement qu'un système d'exploitation qui, pour le coup, était beaucoup plus prégnant, beaucoup plus visible, c'est celui de l'esclavage, c'est celui de la féodalité, c'est celui du servage aussi. Alors, Ces systèmes-là sont abolis progressivement tout au long du 19e siècle dans les pays baltes en 1819, alors que Marx vient de naître, vous le soulignez dans votre ouvrage. Mais ce dernier ne s'y trompe pas. Marx ne voit pas là une forme de libération totale des masses, on va dire, serviles. Certes, bon, il y a l'abolition de l'esclavage ensuite en 1848, l'abolition, l'émancipation des serfs de l'Empire russe en 1861. Mais vous dites, Ulysse Toshkin, que Marx ne s'en réjouit pas nécessairement. En somme, finalement, le salariat reprend le relais de ce qu'était la corvée féodale avant cela.
Oui, Marx s'en réjouit quand même, mais il considère que l'essentiel, le rapport d'exploitation, est demeuré. Et effectivement, le 19e siècle, c'est la période du libéralisme triomphant, et donc de tous ces penseurs, philosophes ou économistes ou les deux, qui voient l'émergence de l'abolition de l'esclavage et du servage, et donc l'émergence de ce qu'on connaît aujourd'hui, la généralisation du salariat, l'émergence du sujet économique propriétaire de lui-même qui va décider avec qui il signe un contrat de travail. Ils y voient l'accomplissement de la liberté humaine dans ce monde. Marx ne voit pas les choses ainsi. Pour Marx, la différence majeure entre le servage et le salariat, c'est que dans le servage, l'exploitation est visible, et dans le salariat, l'exploitation est invisible. Donc, c'est pas une différence de nature, c'est une différence de visibilité. Et donc, l'exploitation, d'où l'écriture de l'œuvre de Marx, qui a pour but de rendre visible, mais par une série d'opérations théoriques, de rendre visible ce fait de l'appropriation du travail les uns par les autres. C'est-à-dire que dans le servage, au moins dans une des institutions du servage, il y en a d'autres, qui est la corvée. Le paysan sert, va travailler un certain nombre de jours de l'année pour le seigneur. Et Marx cite un texte, il y a des règlements qui codifient combien de jours le serf doit au seigneur. Donc Marx prend l'exemple de la Roumanie et il dit, voilà, on a des textes où on sait combien de jours le travailleur travaille pour le paysan, sert, travaille pour lui-même, et combien de jours il travaille pour le seigneur. Donc là, l'exploitation, elle est aux yeux de tous, et elle est écrite noir sur blanc. Dans le salariat, il n'en est rien, bien sûr, puisque le texte auquel on a accès, en quelque sorte, c'est le contrat de travail, qui ne dit pas du tout que l'employeur va s'approprier une part du travail du salarié. C'est un contrat qui semble être un échange travail contre argent. D'où l'importance de cette comptabilité dont on a parlé, de dire, en fait, travail et argent, l'argent n'est pas une réalité hétérogène par rapport au travail. L'argent est le moyen qu'on a dans notre société capitaliste d'acheter le travail des autres. Et donc, le travail que reçoit le salarié, l'argent que reçoit le salarié, le salaire, c'est le moyen par lequel il va pouvoir à son tour récupérer une part du travail des autres, du travail social, on peut dire, pour subvenir à ses besoins. Et de même, et c'est là qu'est tout le point de l'argument de Marx, c'est que le capitaliste lui aussi, l'employeur, son profit, c'est aussi une manière de s'approprier le travail de la société. Et donc, bien que de manière déguisée et invisible, il s'approprie du travail.
Ulysse Toshkin, vous avez mentionné à plusieurs reprises un élément structurant aussi dans cette définition de l'exploitation. Il y a cette idée qu'il y a un système tout autour. Vous avez dit, vous avez parlé du système capitaliste, vous avez parlé des capitalistes en tant que tels. Est-ce qu'il faut en conclure qu'on ne peut pas parler d'exploitation sans qu'il y ait système autour? Alors, soit que ce soit ce système féodal dont on parlait à l'instant, dont le capitalisme prend le relais, mais en somme, pas d'exploitation sans capitalisme pour maintenir le système même d'exploitation.
Je dirais que ce qui intéresse Marx et ce qui m'intéresse dans le livre, c'est l'exploitation systémique. On pourrait s'intéresser à de l'exploitation qui l'est moins, de l'exploitation plus contingente, y compris des phénomènes plus psychologiques ou quelqu'un arrive à tromper quelqu'un d'autre et à obtenir des choses de sa part, etc. Et aujourd'hui, en philosophie, enfin ces dernières décennies, à une époque où le marxisme était plutôt en recul, en philosophie morale, il y a eu des réflexions sur, dans mon comportement individuel, quand est-ce que je vais être exploiteur, exploité, etc. Mais ce qui intéresse Marx et qui Et une question, disons, au moins aussi importante, c'est quelles sont les institutions, quels sont les systèmes économiques d'ensemble qui génèrent de l'exploitation, quels sont les types de cette exploitation, etc. Et donc, voilà, le servage, ça en est un, et le capitalisme, ça en est un autre.
Ce qui m'amène à une autre question très vaste, mais qui peut peut-être aussi ouvrir des portes, Ulysse Lojkine. Est-ce qu'il peut exister, alors dans un système qui est le nôtre, en fait, hein, qui est le système capitaliste, est-ce qu'il peut exister du travail sans exploitation ?
Alors, oui. Il peut en exister, mais aux marges de ce système. C'est-à-dire que si un certain nombre de gens se mettent d'accord pour faire quelque chose ensemble, donc l'exemple que j'aime bien prendre, c'est les groupes d'amis qui cèdent lors de leur déménagement. Ça m'est arrivé récemment, donc j'en profite pour remercier sur les ondes mes amis qui m'ont aidé. Mais l'idée, c'est qu'on va céder à tour de rôle. Et donc, chacun va contribuer, va fournir un effort. Alors, on ne va même pas l'appeler travail, mais on pourrait l'appeler travail. Va fournir cet effort qui est pénible, qui demande de la concentration, qui demande du temps, mais va le fournir à tour de rôle pour les autres. Et ainsi, ce travail va se distribuer également. Et chacun va contribuer au temps de travail qu'il va en recevoir, au moins en moyenne, une fois que chacun aura déménagé à son tour. Donc, il y a des cas où ça existe. Le concept même de travail n'est pas... n'implique pas nécessairement par une sorte de fatalité celui d'exploitation. Mais quand ce travail est mobilisé dans le cadre du capitalisme, eh bien, il l'est parce qu'il est exploité, parce qu'il l'est par un employeur qui va y chercher un profit et donc une appropriation de ce travail. Et de même dans d'autres formes non salariales d'exploitation sur lesquelles on reviendra peut-être.
Alors Ulysse Lojkine, vous avez fourni un bon exemple, je me permets de rebondir dessus. On pourrait aussi se dire que vous avez profité de vos amis qui vous ont aidé à déménager, on pourrait dire que vous avez exploité ces amis-là. Est-ce que ça rentre aussi dans cette vision-là de l'exploitation ? Est-ce qu'on peut se permettre de dire cela, effectivement, qu'à partir du moment où les efforts fournis vous ont profité à vous, de fait il y a exploitation ?
Non, on ne peut pas le dire. On pourrait le dire si, à deux conditions. C'est-à-dire que moi, le modèle que j'ai en tête quand je vous réponds, c'est d'une part que chacun aide les autres à tour de rôle. Donc, si on prend tout ça en compte, il y a un échange égal de quantité de travail contre quantité de travail. L'autre critère qui est important d'avoir en tête, c'est est-ce qu'on est forcé ou pas ? Et donc effectivement, mes amis, s'il y en a un qui dit bah, non, désolé, j'ai pas envie, voilà, il peut tout à fait le faire, ça n'aura pas de conséquences pour lui. C'est pour ça que l'exploitation, on a insisté sur ce qui est le premier niveau, le niveau de la comptabilité, de la quantification des flux de travail, mais il y en a un autre qui est celui du pouvoir, c'est-à-dire comment est-ce que ce travail est obtenu. Et donc, effectivement, si je décide en tant que bénévole, d'aider pour une cause, je fournis mon travail. C'est d'autres gens qui vont en profiter, des gens souvent plus vulnérables que moi. De même, les systèmes sociaux pour aider les enfants, les retraités, les infirmes. Ces systèmes, les libertariens considéreraient peut-être qu'il s'agit de systèmes d'exploitation, mais si on a ce critère de la contrainte, on voit qu'on y échappe, parce que c'est vrai que l'État nous contraint à verser nos contributions sociales, mais ce ne sont pas les personnes vulnérables qui en bénéficient, qui nous contraignent, donc on ne peut pas les qualifier d'exploiteurs. Donc, il y a un deuxième niveau qui est ce niveau de la contrainte, qui là aussi a fait l'objet de beaucoup de controverses.
Et justement, en parlant de controverse, Ulysse Lojkine, il faut essayer de comprendre aussi comment ce qu'a posé sur la table Marx, qu'il a commencé à établir, a aussi été discuté, débattu, repris, critiqué parfois, voire souvent. Il faut insister sur ce point, cette idée aussi très forte que le système capitalisme permet à l'exploitation d'être invisibilisée, en tout cas d'être beaucoup moins visible que ce qu'elle était lors d'un rapport très direct qui était celui de la féodalité. Cette invisibilisation, elle passe aussi par des formes d'intermédiaires, c'est ce que vous avez dit, qui sont à la fois la façon dont on découpe le temps aussi de l'exploiter et aussi la façon dont on le monnaie. En fait, la monnaie, l'argent intervient comme une forme d'intermédiaire. Ça, c'est ce qui permet aussi de mettre une forme de distance dans cette relation d'exploitation. Finalement, on pourrait dire que Marx a mis en place un fameux système d'équivalence entre le temps passé au travail, la façon dont il est rémunéré, les produits aussi achetés avec cet argent-là. Or, ce système-là d'équivalence, il a été assez critiqué, Ulysse Lojkine. Qu'est-ce qu'on lui reproche en soi ?
Oui. Donc effectivement, si on veut compter le travail, on ne peut pas le faire comme quand on étudie le servage roumain ou russe en mesurant un certain nombre de jours passés à travailler pour soi et un certain nombre de jours passés à travailler pour quelqu'un d'autre. dans notre économie avec une forte division du travail et avec de la monnaie, les flux qu'on observe, ça va être d'une part des flux d'argent et d'autre part des flux de marchandises. Et le projet de comptabilité en travail, consiste donc nécessairement à remonter au niveau du travail qui n'est pas visible à partir de ces deux niveaux-là qui sont visibles et qui sont surtout aujourd'hui, on a une comptabilité nationale très, très performante et précise, qui sont même assez bien quadrillées quand même par l'appareil statistique. Et ce que Marx dit, c'est que, enfin, la catégorie que Marx utilise pour ça, ce qu'on a entendu dans l'extrait tout à l'heure, c'est la catégorie de valeur. Et donc Marx nous dit, en fait, c'est bien du travail qui circule sous forme cristallisée dans les marchandises et donc sous forme doublement cristallisée dans l'argent. Et donc, cette substance commune à l'argent, aux marchandises et au travail, on va l'appeler valeur, et donc ça va nous permettre de raisonner en nous disant que puisque certains s'approprient de l'argent, ils s'approprient de la valeur. Mais la quantification précise de cette catégorie pose difficulté. Marx en était conscient, il a proposé, plutôt dans le livre 3 du Capital, donc quand il expose sa théorie de l'exploitation, disons, il met entre parenthèses cette difficulté technique de quantification, et il y revient plus tard, mais sa solution a fait couler énormément d'encre, et elle pose problème parce que le problème qui est posé, c'est de dire, puisqu'il s'agit de trois niveaux différents qui se superposent pas exactement, certes, il y a une relation entre ces trois niveaux, mais ils se superposent pas exactement. Dans ce cas, est-ce que ce n'est pas abusif de dire, on va simplement dire, tout ce qui est mesuré en argent, on pourrait le convertir en temps de travail comme on convertit des Fahrenheit en Celsius ou comme on convertit des miles en kilomètres, etc. Ce que fait Marx quand il expose sa théorie de l'exploitation. Et donc, il y a eu différents débats techniques, mathématiques, sur la relation mathématique exacte et est-ce qu'il est vraiment possible dire que les grandeurs monétaires peuvent être converties en grandeurs de travail. Moi, ce que je dis dans le livre, c'est que l'ambition comptable, qui est à mon avis quand même l'intuition première de cette théorie de l'exploitation de Marx, l'ambition comptable de quantifier, de quadriller, de mesurer les flux de travail.
Et donc de mettre en équivalence toutes ces mesures-là aussi.
Voilà. Cette ambition-là, elle est plus modeste en quelque sorte que l'ambition qui consiste à dire, qui est celle de la théorie de la valeur, qui consiste à dire les prix sont des réalités secondes par rapport au travail. Non, c'est deux réalités distinctes et les prix sont le mode... sont l'institution qui permet de gérer, évidemment, la circulation des marchandises et donc du travail. Donc, c'est deux réalités qui sont fortement liées, mais qui sont distinctes. Mais il est possible de mesurer les flux de travail en tant que tels dans l'économie, puisqu'on sait qui travaille combien, on sait combien de travail est fourni à telle ou telle étape, et souvent, c'est des processus qui ont beaucoup d'étapes de production de marchandises. Donc, on peut reconstituer combien de travail est incorporé dans une marchandise, et donc combien de travail on peut acheter avec de l'argent qui permet d'acheter des marchandises. Donc ça, c'est possible de le faire de manière descriptive, comptable, et les économistes néoclassiques qui parfois ont eu tendance même à se moquer de la théorie de Marx en disant qu'elle était primitive, que ce concept de valeur c'était métaphysique, etc., en fait, ne permettent pas de réfuter cette approche comptable de la circulation du travail dans l'économie.
France Culture, entendez-vous l'écho? Alia Tovine.
Ulysse Lojkine, vous proposez dans votre ouvrage une définition qui reprend, qui se place évidemment dans les pas de Karl Marx, mais qui cherche aussi à aller plus loin, vous venez de le dire, avec une forme d'exploitation qui ne se borne pas à la seule dimension du surtravail, ce fameux surtravail qu'on a déjà évoqué, en reprenant le constat de Gérald Cohen que vous citez, grande figure du marxisme analytique. Peu importe ce qui explique la différence entre la valeur que le travailleur produit et celle qu'il reçoit, ce qui importe, c'est simplement qu'il y ait une différence. C'est un message très fort quelque part, et surtout il permet, on l'entend, d'aller plus loin, de se débarrasser de beaucoup de problèmes théoriques qu'on vient d'aborder à l'instant, mais il permet de faire ça pour se concentrer sur quoi, Ulysse Lojkine, finalement, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette définition aussi de l'exploitation, et est-ce que c'était aussi une occasion de remettre en son centre la notion de pouvoir qu'on a commencé à aborder en début d'émission?
Oui. Ce qu'on va mettre au centre, c'est-à-dire toute catégorie, on revient sur cette question des catégories qu'on emploie, qui sont traduisibles les unes dans... Une catégorie économique a l'effet de mettre en lumière certaines choses, au détriment souvent d'autres. Une comptabilité en travail, elle va mettre en lumière qui travaille pour qui s'approprie le travail de qui. Pourquoi est-ce que ça me paraît intéressant? Ben, une manière, je pense, de le dire, c'est de partir des travaux récents, très intéressants, d'économie des inégalités. On a eu beaucoup de... Il y a un discours critique sur l'économie qui se développe beaucoup ces dernières années, en particulier après la crise de 2008, mais aussi pour d'autres raisons. Et ce discours, il s'est beaucoup construit autour d'une catégorie qui est celle de l'inégalité de revenus et de patrimoine. Donc je pense évidemment aux travaux de Thomas Piketty, de Gabriel Zucman et de tous les gens qui ont travaillé avec eux et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une très bonne représentation des inégalités de revenus et de patrimoine dans la société. Donc qui reçoit plus d'argent que qui? Il me semble que la catégorie d'exploitation, la catégorie de flux de travail, elle permet de faire un pas de plus, qui est de dire, attention, c'est pas seulement une comparaison que certains gagnent plus que d'autres. Et donc typiquement, en plus, les travaux de ces économies d'inégalité mettent en lumière en particulier l'importance des revenus du capital. Et ce que nous dit et donc ceux qui gagnent le plus, voilà, qui gagnent... des 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus que la moyenne, ça va être des gens qui détiennent des groupes capitalistes et qui touchent des revenus énormes sous forme de profits ou de plus-value sur leurs actions. Bon. Et ce que nous dit l'approche en termes de travail, c'est de nous dire, mais c'est pas seulement qu'ils gagnent plus que les autres, c'est qu'ils gagnent le travail des autres. Et donc ça, c'est une approche relationnelle, pas seulement comparative, mais relationnelle, où on va voir... non seulement qui a plus que qui, mais qui travaille pour qui. Et cette approche relationnelle, en tant qu'appropriation, elle n'implique pas forcément... Enfin, cette approche relationnelle, elle nous invite, disons, à nous intéresser au rapport de pouvoir. Puisque une fois qu'on a vu que quelqu'un travaillait pour quelqu'un d'autre, eh ben, on en vient à se demander comment est-ce qu'il y est contraint et quel est le rapport de pouvoir du second sur le premier.
Et ce qui est intéressant aussi avec cette question des inégalités, Ulysse Lochkin, c'est que ces inégalités, et notamment de salaire, sont parfois criantes, elles sont parfois énormes. Il ne s'agit pas juste de comparer entre deux fiches de paye, il y a vraiment des enjeux énormes. Et là intervient une autre question qui est celle de la propriété et qui est absolument cruciale aussi pour bien comprendre ce dont il s'agit. Vous dites en fait qu'on se heurte à une forme de problème théorique qui est que on a des individus qui sont très très bien rémunérés, qui pour autant ne sont pas nécessairement propriétaires, ils sont eux-mêmes employés, ils font eux-mêmes partie d'une entreprise et pourtant ils gagnent 3, 4, 5 fois plus que celui ou celle qui sera tout en bas de l'échelle hiérarchique de cette même entreprise. Et ça pose une difficulté majeure, quelque chose qu'on a du mal à penser. Finalement, ces individus sont coincés entre deux statuts, entre exploités eux-mêmes en tant que non-propriétaires et exploiteurs en tant que très haut salaire et qui ont tout de même une place très haute dans la hiérarchie de l'entreprise.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est un thème, disons, transversal de mon livre qui est de pluraliser l'appréhension de l'exploitation dans le capitalisme par rapport à Marx qui, comme on l'a très bien entendu dans cet extrait, considère que le rapport d'exploitation par excellence, il est conscient qu'il y en a d'autres, mais par excellence, c'est le rapport de l'employeur au salarié. Ce rapport bilatéral. Et en fait, en utilisant même les catégories de Marx, on parvient à confirmer qu'il existe un rapport d'exploitation qui prend cette forme, mais on voit aussi qu'il y en a d'autres. Les cadres, donc les salariés qui ont des hauts salaires posent en particulier cette question. C'est-à-dire que ils parviennent à s'approprier une part du travail social plus importante que le travail qu'ils ont fourni. Donc, si on mesure en termes d'appropriation nette de travail, qui est le critère qu'on a un peu suivi jusqu'ici, eh ben, ils sont des exploiteurs. Si on mesure uniquement à l'échelle de leur entreprise, pourtant, ils produisent un profit pour leur capital, pour leur employeur, on pourrait penser qu'ils sont des exploités. Donc là, il y a une ambiguïté dans la théorie qui, à mon avis, n'annule pas la pertinence de la théorie. Donc tout va dépendre des conventions comptables qu'on adopte. La manière dont on compte le travail du cadre, est-ce qu'on compte qu'il y a plus de travail dans une heure de travail de cadre parce que c'est plus qualifié ou au contraire, est-ce qu'on compte toutes les heures pareilles? Mais si on compte toutes les heures pareilles, alors effectivement, on arrivera à l'idée que les cadres ou certains cadres sont plutôt du côté des exploiteurs que des exploités. Et ça veut dire que eux, ils ont un mécanisme d'appropriation qui n'est pas la propriété privée des moyens de production, mais qui est la rareté de leurs compétences, leur position dans l'entreprise, leur influence. Donc parmi ces salariés très bien payés, il y en a ceux qui sont souvent le mieux payés et qui ont le plus de pouvoir, ça va être les dirigeants d'entreprise qui sont officiellement des salariés, mais dont on voit bien qu'ils ont un statut différent.
Une forme d'indépendance
également. Et une rémunération différente. Et donc, par une série il y a une série d'institutions qui permettent à ces travailleurs qui ont en commun avec les autres travailleurs de devoir aller tous les jours au travail, fournir leur travail, en même temps de s'approprier du travail des autres de manière disproportionnée par rapport à ce qu'ils ont fourni.
Ulysse Lochkine, il y a encore deux autres problèmes, entre guillemets, qui se posent aussi à cette ambition de la comptabilité. On l'a dit, qu'est cette, en fait, cette notion d'exploitation. La première, elle est importante, ce sont aussi les écarts de salaire, parfois colossaux, entre régions du monde. Un travailleur au nord ne gagnera pas forcément à niveau, on va dire, hiérarchique égal, la même chose que les travailleurs du sud. Ça aussi, ça a posé un problème. De quelle nature, de quel ordre est-ce que c'est peu ou prou les mêmes termes, ça se pose dans les mêmes termes que ce qu'on vient d'expliquer avec ces écarts de salaire au sein de l'entreprise?
Oui, c'est une question qui est analogue parce que le salarié d'un pays du Nord, donc d'un pays riche, disons, comme la France, en fait s'approprie du travail de travailleurs du Sud. Donc ça va être quand il mange du chocolat ou du café, mais aussi aujourd'hui quand il achète ses vêtements produits au Bangladesh ou au Maroc. Et il peut s'en approprier en fonction de son revenu et du salaire des travailleurs du Sud global qui ont produit ces marchandises. Il peut s'en approprier plus qu'il n'en a fourni. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a de nouveau une ambiguïté dans le paysage de l'exploitation qu'on va dessiner à l'échelle mondiale pour savoir qui est exploiteur et qui est exploité.
Et puis, il y a une troisième difficulté avec la comptabilité, c'est évidemment de prendre en compte ce qu'on n'arrive justement pas à compter.
Le mode de production domestique, c'est justement le mode de production où la force de travail, j'emploie là un vocabulaire marxiste, mais enfin, la capacité de travail des épouses, hein, des épouses et souvent aussi des enfants. De moins en moins maintenant, mais c'était des enfants, hein, filles ou garçons. La capacité de travail de ces gens était utilisée par le chef de famille. Et alors évidemment, c'était beaucoup plus fréquent dans le cas des épouses. Ça faisait partie de la notion même du mariage que les femmes fassent ce travail pour rien. Pour rien, je veux dire, juste pour leur entretien en fait. Alors, il y avait tout un débat, en effet, marxiste, qui était que ça ne produisait pas de plus-value. Enfin, il y avait un truc qui faisait que ce n'était pas capitaliste, donc ce n'était pas exploitatif. Hein. Il n'y avait pas d'exploitation parce que ça ne rentrait pas dans le capitalisme. C'est-à-dire qu'il y avait une adéquation totale entre exploitation et capitalisme. Et c'est contre ça que je me suis élevée à ce moment-là, mais ensuite, pendant les 40 ans qui ont suivi... Hein.
On entendait là la voix de Christine Delphi diffusée en 2019 sur France Culture, une voix essentielle dès lors que l'on parle d'exploitation, ce qui est le cas aujourd'hui avec vous, Ulysse Lochkine. Comment la question de l'invisibilisation du travail domestique réalisé majoritairement par des femmes entre-t-elle en ligne de compte dans ce projet de comptabilité du travail que vous avez notamment entrepris finalement avec cet ouvrage? Est-ce que c'est un aspect qui alerte aussi sur le renouvellement nécessaire de la notion d'exploitation?
Oui, en fait, je suis très content qu'on ait entendu un extrait de Delphi, parce que l'opération théorique qu'elle fait est à la fois très simple et très vaste
très
dans
ambitieux.
Ses effets théoriques. C'est-à-dire que Delphi prend tout simplement au sérieux les catégories de Marx. C'est-à-dire, on mesure qui va travailler pour qui s'approprie le travail de qui. Simplement, elle va les appliquer à un domaine où Marx lui-même ne l'avait pas appliqué, qui est le fonctionnement du foyer. Et dans le foyer, effectivement, Delphi le dit avec beaucoup d'autres, on observe une division sexuée des tâches qui perdure toujours aujourd'hui. C'est aujourd'hui, à nouveau, on a des quantifications pour ça aujourd'hui. Il y a des enquêtes emploi du temps de l'INSEE qui permettent de dire que, voilà, en moyenne... le travail domestique repose majoritairement sur les femmes. Et donc, il y a une appropriation du travail des femmes par les hommes. Et cette appropriation n'est pas capitaliste. Elle est patriarcale, c'est-à-dire qu'elle repose sur d'autres choses. Ça passe pas par le marché, ça passe pas par l'argent, ça passe par des normes sociales qui sont partagées dans la société, et qui s'impose à l'intérieur des foyers, parfois couplé à de la violence, etc. Moi, ce qui m'a intéressé dans le livre, c'est de dire bien que ce soit deux mécanismes distincts, on peut essayer, si on veut faire une comptabilité globale, de les intégrer ensemble dans cette comptabilité globale. Et dans ce cas-là, ce qu'on va avoir en moyenne statistiquement, évidemment, les situations sont très variables, c'est que dans le foyer hétérosexuel, l'homme va fournir plus de travail salarié et la femme va fournir moins de travail salarié que l'homme et plus de travail domestique. Mais c'est là que la mise à plat par la comptabilité est utile, c'est qu'on peut additionner ces quantités et dire d'accord, mais prenons en compte tout le travail qui est fourni à la société, que ce soit fourni dans le cadre du foyer ou fourni sur le marché, ça va profiter à des gens qui sont très loin, mettons à plat et regardons qui travaille le plus de temps. Et ce qu'on observe, alors je n'ai pas fait d'études poussées, mais si on prend les données de l'enquête emploi du temps française, ce qu'on observe, c'est que les femmes travaillent plus. Dans ces foyers hétérosexuels, les femmes travaillent plus, c'est-à-dire qu'elles travaillent un peu moins de manière en moyenne salariée et beaucoup plus à la maison. Et donc, au total, elles travaillent plus. Donc, ce qui veut dire qu'en tant que société, on fonctionne grâce à des femmes qui fournissent plus de travail que les hommes, et qui, on peut penser, en reçoivent autant, voire moins. C'est-à-dire que l'homme, il reçoit le salaire, donc après, il va partager effectivement les dépenses dans le foyer, la consommation dans le foyer, mais il va avoir plus de pouvoir sur les dépenses de cet argent, puisque c'est lui qui le reçoit. Donc, il y a bien une structure patriarcale d'exploitation dans notre société, qui est bien distincte, comme l'a dit Delphi, de la structure capitaliste, mais qui interagit avec elle.
Et puis on en revient à cette question fondamentale du pouvoir aussi, qui est cruciale dès lors qu'on cherche à comprendre ce dont l'exploitation se saisit aussi en termes d'objets. Vous le dites dans votre ouvrage, il y a cette idée que le pouvoir en tant que tel, mais aussi la façon dont il s'organise à travers des mécanismes, là pour le coup c'est très concret, et ça n'a quasiment rien de théorique, mais c'est très concret, ce sont des mécanismes de contrôle, de surveillance qui sont imposés aux salariés dans la plupart des cas. Ça aussi, ça participe à cette notion d'exploitation. Alors là, ce que je voulais comprendre avec vous, Lise Lochkine, c'est dans quelle mesure cette idée de rajouter la notion de pouvoir, la notion de contrôle, de surveillance, s'inscrit dans cette définition très marxiste qu'on a établie jusqu'ici, ou est-ce qu'au contraire, c'est une façon de renouveler l'approche, et surtout, vu les circonstances actuelles, où cette notion de contrôle et de surveillance est extrêmement exacerbée?
Oui, aujourd'hui, on a affaire à des moyens de contrôle de plus en plus performants. Heureusement, on a aussi eu, de manière partielle et aujourd'hui parfois remise en cause, le développement de protection des salariés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un exemple que je prends dans le livre, qui paraît complètement dystopique, mais qui en fait est une actualité du monde du travail, c'est des caméras qui vont être aujourd'hui installées, qui sont de plus en plus installées en fait dans les camions et qui font que les chauffeurs routiers sont surveillés à chaque instant. Et ces caméras sont capables de suivre le mouvement de leurs pupilles pour vérifier qu'ils ne sont pas déconcentrés. Donc, on arrive à un degré de surveillance et de contrôle sur le travail qui est extrême. Cependant, la surveillance et le contrôle, Marx les avait déjà pensés. Donc, de ce point de vue-là, je dirais qu'il y a, selon les cas qu'on regarde, soit une atténuation, soit une intensification de choses que Marx avait vues et avait pensées et avait intégrées à sa théorie de l'exploitation. Et je pense que le pouvoir, ce que Marx l'appelle le despotisme d'entreprise, donc pour bien faire ressortir le fait que ce qu'on refuse dans la sphère politique à l'heure de la Révolution française, on l'accepte dans l'entreprise. C'est des formes de tyrannie, en fait, avec l'arbitraire du propriétaire des moyens de production qui s'applique pyramidalement jusqu'aux salariés d'exécution. Donc tout ça, je dirais, Marx l'a pensé. Par contre, ce que Marx laisse plus de côté, justement, ça va être des formes de pouvoir qui s'exercent en dehors de l'emploi. Et là, on revient sur l'idée qu'il est important, à mon avis, de pluraliser les formes d'exploitation qu'on reconnaît. Donc typiquement, le pouvoir d'un propriétaire immobilier sur un locataire. Le pouvoir du propriétaire immobilier sur le locataire ne passe pas tellement par la surveillance, normalement, et ne passe pas par le fait de donner des ordres. Donc, c'est différent. Et pourtant, il y a un pouvoir. Et il y a un pouvoir qui, à nouveau, se cristallise dans des moments très concrets. Et notamment dans deux moments très concrets qui sont la sélection, c'est-à-dire... donc j'ai parlé de mon déménagement, donc j'ai fait des visites d'appartements, et donc voilà, le propriétaire ou son représentant est là, et puis il trie, il va décider qui il sélectionne. Et ça existe sur le marché de l'emploi, le moment du recrutement, mais ça existe aussi sur ce marché immobilier, par exemple. Et donc, là, il y a un pouvoir qui peut donner lieu à des discriminations, qui peut donner lieu à toutes sortes d'abus. Et puis, il y a un autre moment de cristallisation de ce pouvoir, qui est encore plus invisible, c'est le moment de l'exclusion, le moment de l'expulsion. Donc, le moment où vous êtes chassé de votre appartement parce que vous n'avez plus payé votre loyer, ou simplement parce que le propriétaire décide qu'il préfère lui en faire usage lui-même ou pour sa famille. Et ce moment, en général, ne se produit pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important, parce qu'il exerce ses effets par une menace constante. Et donc là, il y a un pouvoir plus ténu, doublement invisible en quelque sorte, qui n'a pas seulement le pouvoir sur le marché de l'emploi et invisibilisé par la signature du contrat qui fait croire à un consentement. Le pouvoir sur le marché immobilier ou sur le marché du crédit, par exemple, est doublement invisible puisque... Au quotidien, je suis chez moi, je ne reçois pas d'ordre, je ne suis pas surveillé. On a l'impression d'une autonomie. Et pourtant, il y a ce pouvoir qui se cristallise dans ces deux moments. Et il y a aussi un flux d'appropriation, évidemment, à travers le loyer. Et donc, ça nous invite à pluraliser le paysage qu'on se donne des formes d'exploitation dans le capitalisme.
Alors, vous le disiez justement, Ulysse Lojkin, des formes d'exploitation qui se situent en dehors du simple rapport au travail et qui participent à une reconfiguration plus vaste aussi, avec de multiples fils, des fils invisibles, comme vous le dites vous-même. Alors, quelles sont ces nouvelles formes? Quelle configuration, quelle forme prend aussi, presque géométrique, ce nouveau capitalisme-là lié à ces nouvelles formes d'exploitation? On en parle dans quelques instants.
Ni se nourrir, ni se loger n'est gratuit. Je crois qu'avec ça j'ai tout dit. Ce monde est cruel.
Ce monde est cruel.
Ce monde est cruel.
Ça y est, j'ai tout dit.
Pas manger, ça fait mourir.
Yeah.
Et je suis habitué au chauffage.
Yeah.
Tes besoins vitaux sont payants.
Yeah.
T'as compris la prise d'otage.
Yeah.
Depuis tout petit dans la merde.
Merde.
Tu sais qu'il faudra mailler.
Yeah.
Au moins un peu pour loyer.
Yeah.
Au moins un peu pour grailler.
Yeah.
Depuis tout petit dans la merde.
Merde.
On t'apprend à travailler.
Yeah.
Personne va te ravitailler à l'œil, personne va s'apitoyer, ma
gueule.
Ce monde est cruel,
ce monde est cruel,
ce monde est cruel,
ce monde est cruel.
Et je peux développer encore, je te le fais sans aucun effort. Pour travailler, donc pour manger, on te prend à 3 ans, on te lâche à 25, tes meilleures années. Si tu pars avant, tu démarres en bas de la pyramide et tu fermes ta gueule. Tu fais les pires détaches, tu gravis les étages. Au ralenti, tu tapines en stage, t'es sous-payé et on t'oblige à sourire. Car c'est une chance, déjà d'être là avec tes vieux diplômes. Hein? Bon, parlons des diplômes. Personne n'est sûr, mais fais-le quand même pour la sécurité. D'ailleurs, toute ta vie pense à sécuriser. Même si ta masse ne dépense pas, on sait pas ce qui peut arriver. Hein? Tu peux mourir, c'est vrai. Mais si c'est pas le cas, tu peux souffrir du manque, être interdit par ta banque. Et ça, ça fait peur.
Et ça fait peur.
Ouais, les banques, ça fait peur. Des banques privées s'enrichissent, des pays s'endettent. De tout petits groupes très riches face au reste du monde, face au bétail, face à la masse de salariés sans tête. N'oublie jamais qui gagne quoi lorsque tu taffes. Si ça te fâche et que tu veux plus, n'oublie jamais que tu manges plus. Ça ressemble à un choix. Si c'est pas de l'esclavagisme, c'est quand même pas vraiment très humaniste.
France Culture rappelle un titre de Valde, c'est une suggestion de votre part, Ulysse Lojkin. Alors on voit à travers les paroles le lien peut-être avec notre sujet, mais pourquoi ce choix précisément ?
Je commente ce texte dans le livre, d'abord parce que j'aime beaucoup cette chanson, mais aussi parce que je pense que c'est une chanson qui est philosophiquement assez intéressante dans sa... dans sa défense du concept marxiste de pouvoir. Parce que ce que nous dit Valde, c'est pas de l'esclavagisme, personne te force, mais n'oublie pas, c'est un rappel, le titre de la chanson c'est rappel, n'oublie pas, tu dois toujours avoir en tête ça, il va t'arriver des choses très mauvaises si tu fais pas ce qu'on attend de toi. Et ça, c'est cette forme invisible de pouvoir que le marxisme a pensé et que l'économie standard, néoclassique ne pense pas, qui est un pouvoir fondé tout simplement. C'est pour ça, c'est à la fois une forme de pouvoir bête et méchante, en quelque sorte, très simple, et en même temps, invisible.
C'est plus un pouvoir de la menace, en fait, un pouvoir de l'épée de Damoclès.
Exactement, c'est l'épée de Damoclès. Donc, je dis dans le livre, le salariat, une fois qu'on est dans la relation d'emploi, le salarié, c'est un peu Sisyphe. Il doit tout le temps recommencer à travailler, obéir aux ordres, dans certaines représentations antiques, Sisyphe obéit aux ordres de Perséphone. Mais en amont de ça, il y a une forme de pouvoir plus générale, plus structurante, qui se retrouve aussi bien dans le rapport au propriétaire immobilier, dans le rapport à la banque que cite Valde, et dans le rapport au marché de l'emploi, qui est la nécessité pour subvenir à ses besoins, de se soumettre à d'autres et d'accepter de céder une partie de son travail à d'autres.
Alors vous êtes bien à l'écoute de France Culture, une notion à la fois bien ancrée dans les débats théoriques de longue date mais en sans cesse renouvellement, voire reconfiguration, c'est celle d'exploitation qui s'inscrit aujourd'hui dans le dictionnaire d'Entendez-vous l'écho grâce aux travaux de l'économiste et philosophe Ulysse Lojkine, post-doctorant à Sciences Po, qui vient de faire paraître un ouvrage à ce sujet, Le fil invisible du capital, déchiffrer les mécanismes de l'exploitation.
Moi mon contrat il est pour 21 chambres, depuis 4 mois j'en fais 40. 40 matelas retournés, vous imaginez ?
J'imagine très bien, oui. C'est rentable de sous-payer les gens.
Insupportable. On n'a pas de panier repas. On n'a même pas le temps de boire de l'eau tellement les cadences, elles sont infernales.
Ouais, et maintenant, ils nous déplacent. On a 3 filles qui sont envoyées au nowhere de Lens.
C'est habile. Ça permet de casser les dynamiques de groupe, c'est classique pour étouffer la contestation.
Après, on va se dire la vérité, hein, la plupart des filles, elles ont pas de titre de séjour, donc ils en profitent, quoi. Ils abusent de leur situation de vulnérabilité. On va la faire, cette grève. Le problème, c'est juste... Comment ?
Bah, vous commencez par demander une pointeuse. Et puis une augmentation. Le travail à la tâche est interdit en France. Article L82.21-5. Est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Point. Mais là, et puis Le service des étages, c'est le cœur d'activité d'un hôtel, donc c'est pas normal que ce soit sous-traité. Alors, il faut exiger d'être intégré à Sargasse pour bénéficier du même statut que leurs employés. Voilà, c'est tout, parce que la sous-traitance, c'est de la maltraitance.
Ulysse Lojkine, vous citez au tout début de votre ouvrage cet épisode retracé ici par une série intitulée Frotter, frotter, produite par France Télévisions. En 2019, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis de Batignolles se mettent en grève pour protester contre leurs conditions de travail. Si c'est le point de départ de votre réflexion, c'est parce qu'il reflète un phénomène majeur. Les relations d'exploitation que nous avons décrites jusqu'ici ont évolué. Ce n'est plus uniquement une relation exploiteur-exploité, c'est ce qu'on disait. Se greffe un troisième acteur qui redéfinit les échelles de l'exploitation. Et c'est dans ce cas précis, une usine de sous-traitance, on l'entendait à l'instant, qui emploie les femmes de chambre. Qu'est-ce que cela vient changer fondamentalement, l'introduction de ce nouvel acteur, de cet intermédiaire supplémentaire ?
Ça rend... D'abord, c'est un phénomène qui est très massif et qui s'observe au niveau international dans notre quotidien. Les femmes de ménage sont très souvent sous-traitées, les gardiens de sécurité le sont, les services de restauration collective, que ce soit en entreprise ou parfois dans le public, le sont. On observe d'autres phénomènes d'exploitation indirecte autour de nous, comme la franchise. Donc, il y avait eu une émission de « Entendez-vous l'écho fait. Dessus ?» Donc, on a un petit patron de franchise qu'on va appeler le franchisé, qui, en fait, est extrêmement contraint parce qu'il doit respecter un cahier des charges très précis et reverser une partie de sa valeur ajoutée à une marque, le franchiseur. Et puis, on observe ce phénomène au niveau international, très massivement. Et ça, c'est l'exemple du Rana Plaza.
Où les chaînes s'étendent via la sous-traitance, notamment, et où on perd le contrôle, finalement, de celui qui donne l'ordre et de celui qui l'exécute.
Voilà, le secteur textile est un très bon exemple de ça. On a des marques qui ont leur siège en Europe, aux États-Unis, qui utilisent ce pouvoir donné par la marque pour vendre leurs produits à des prix élevés, mais qui n'ont pas d'usine, n'ont pas d'atelier, n'ont pas d'ouvriers directs, et qui sous-traitent la production matérielle. Elles ont des salariés qui vont dessiner les prochaines baskets, etc. Mais la production matérielle, elle est sous-traitée à des ateliers. Et donc, on a des phénomènes assez différents. La sous-traitance de services dans le nettoyage, la franchise, les chaînes de valeur mondiale dans le secteur manufacturier et textile en particulier, des phénomènes assez différents, mais qui ont en commun de distendre la relation d'exploitation et donc d'introduire un ou parfois plusieurs moyens termes dans cette chaîne entre l'exploité ultime et l'exploiteur ultime, disons, qui va être typiquement un grand groupe capitaliste coté en bourse. Et ces échelons intermédiaires m'ont intéressé parce que théoriquement, ils demandent de raffiner la théorie pour pouvoir les penser, parce que ils sont des exploiteurs, ils s'approprient aussi le travail des autres, ils exercent un pouvoir sur les autres, et pourtant ils sont aussi à leur tour pris dans une hiérarchie où ils ne sont pas en haut. Et donc, dans la relation de sous-traitance, les termes qu'on emploie, c'est donneur d'ordre, preneur d'ordre, donc c'est pas un hasard. Et dans la franchise, pareil, il y a le cahier des charges qui est très contraignant pour le franchisé, pas pour le franchiseur. Donc, il faut enrichir la théorie de l'exploitation pour pouvoir penser ces chaînes qui se déploient à plusieurs échelles.
Et puis il y a un autre défi théorique d'un certain côté et très pratique de l'autre, c'est qu'on pourrait se dire très logiquement, plus les chaînes s'allongent, plus les acteurs se multiplient, plus il devient compliqué de maintenir tout ce monde-là dans une forme de cohésion et de cohérence, ne serait-ce que productive tout simplement. C'est tout l'enjeu de la coordination, une coordination qui avait été porte nue, qui avait été au cœur des propos que tenait Milton Friedman en 1980.
Regardez ce crayon à papier. Il n'y a pas une seule personne au monde capable de fabriquer ce crayon à elle seule. Le bois dont il est fait, pour ce que j'en sais, provient d'un arbre abattu dans l'État de Washington. Pour abattre cet arbre, il a fallu une scie. Pour fabriquer cette scie, il a fallu de l'acier. Pour fabriquer l'acier, il a fallu du minerai de fer. Cette partie noire au centre, qu'on appelle mine de plomb, n'est en réalité que du graphite compressé. Je ne sais pas exactement d'où il vient, mais je pense qu'il provient de mines d'Amérique du Sud. Cette extrémité rouge, la gomme, c'est un peu de caoutchouc qui vient probablement de Malaisie, d'où l'arbre à caoutchouc n'est même pas originaire. Il a été importé d'Amérique du Sud par des hommes d'affaires avec l'aide du gouvernement britannique. Cet anneau, je n'ai pas la moindre idée d'où il vient. Ni la peinture jaune, ni celle qui a servi à tracer les lignes noires, ni la colle qui maintient le tout assemblé. Il a fallu littéralement la coopération de milliers de personnes pour fabriquer ce crayon. Des personnes qui ne parlent pas la même langue, qui pratiquent différentes religions, qui pourraient même se détester si elles se rencontraient. Quand vous allez au magasin pour acheter ce crayon, vous échangez en réalité quelques minutes de votre temps contre quelques secondes du temps de ces milliers de personnes. Qu'est-ce qui les a réunis et les a incités à coopérer pour fabriquer ce crayon? Il n'y avait pas de commissaire envoyant des ordres depuis un bureau central. C'était la magie du système des prix.
Alors, qu'est-ce qui fait que le système fonctionne? Qu'est-ce qui fait que tout le monde arrive à travailler ensemble, donc à se coopérer et donc à se coordonner d'une certaine manière? Alors, pour Friedman, la réponse est simple, c'est une forme de système magique, il le dit lui-même. On peut dire que c'est une, quelque part une forme de foi dans le marché. Ulysse Lochkine, est-ce que c'est vraiment le marché qui est le plus à même de répondre à cet impératif de coordination, vu tout le feuilletage qu'on a évoqué aussi en termes de chaîne d'exploitation?
Oui, il m'a paru important de coupler les concepts d'exploitation avec celui de coordination. C'est des concepts qui, en général, c'est plus compliqué que ça, mais en général, sont portés plutôt par des traditions différentes. Le concept d'exploitation, bien sûr, par la tradition marxiste. Le concept de coordination, par une tradition qu'on peut dire libérale. Les grands penseurs de la coordination économique dans le capitalisme, c'est Friedman qu'on a entendu, c'est Hayek, c'est les inspirateurs du néolibéralisme, en fait, qui utilisent ce genre de termes. Chez Friedman, c'est la magie, chez Hayek, c'est la merveille de la coordination par le marché. Et ces penseurs libéraux et néolibéraux contestent tout à fait l'usage de la catégorie d'exploitation, en tout cas son usage marxiste, et disent « mais non, ce système si complexe qui fonctionne si bien, comment oser le qualifier de système d'exploitation ?» Et inversement, chez les marxistes, il y a chez Marx, dans Le Capital, des éléments d'une réflexion sur la coordination, sur le rôle des prix, le rôle de l'argent, le rôle du crédit pour coordonner les activités à grande échelle. Mais cette réflexion, elle est quand même laissée dans l'ombre, en second plan, par rapport à une réflexion sur la production, avec cette idée que ce serait le lieu de production, vraiment ce rapport de face à face entre le salarié et l'employeur, qui serait le lieu de l'exploitation et donc qui serait le nœud, qui serait le foyer central du capitalisme où tout se joue. Et donc c'est là qu'il faut intervenir, c'est ça qu'il faut abolir que le socialisme ou le communisme doit abolir. Et c'est là qu'est le nœud de tout. Et donc on se retrouve avec ces deux traditions qui ne parlent pas forcément entre elles,
qui sont difficilement réconciliables.
Voilà. Ce que je propose, c'est de dire, c'est les mêmes institutions dans le capitalisme, qui joue un rôle d'exploitation indéniable et qui joue un rôle de coordination tout aussi indéniable. Ces institutions, c'est la propriété privée, c'est l'organisation hiérarchique de l'entreprise et c'est le marché de l'emploi dont on a parlé et le marché des capitaux, mais aussi effectivement ces formes que je propose d'appeler nodales qui sont ces formes de sous-traitance où il y a un acteur au centre qui va coordonner tous les sous-traitants ou les clients autour de lui. Et donc on est face à un défi qui est que c'est la coordination et l'exploitation sont couplées ensemble.
Et c'est ainsi, Ulysse Lochkine, que vous cartographiez, vous proposez une nouvelle cartographie aussi de ce contexte, ce concept d'exploitation. Merci infiniment d'être venu nous en parler aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le fil invisible du capital, déchiffrer les mécanismes de l'exploitation, paru à la Découverte le 10 avril dernier.